Mémoire en chantier, tel est le titre de la première biennale imaginée par le réseau pour l'histoire et la mémoire des immigrations et des territoires en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Un réseau constitué en 2008 et 2009 et qui réunit des institutions, des associations et des chercheurs dans le but d'échanger, de conserver, de faire connaître et de valoriser les histoires et les mémoires des immigrations en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Un réseau qui a imaginé cette biennale pour partager les enjeux liés à ces histoires et ces mémoires auprès du grand public. 2 mois donc d'expositions, de spectacles, de projections, de rencontres et de débats. 64 manifestations au total, de Marseille à Menton, en passant par Nice, La Seyne-sur-Mer, Aubagne, Miramas, Port-Saint-Louis, Port-de-Bouc et bien d'autres villes ou villages de Provence-Alpes-Côte d'Azur. Interview avec Ramzi Tadros de l'association ACT, Approche Culture et Territoire, l'association coordinatrice du réseau pour l'histoire et la mémoire des immigrations et des territoires, et Yvon Gasteau, historien, membre du laboratoire URMIS à l'Université de Nice. Ramzi Tadros.
C'est une volonté de plusieurs acteurs à la fois privés et publics, associatifs et pouvoirs publics, notamment à l'époque l'ACCES, l'Agence de cohésion sociale, et les archives départementales des Bouches-du-Rhône. C'est-à-dire qu'on travaillait sur ces questions, on faisait des cycles de conférences, c'était un peu éclaté. Et donc, à partir de juin 2009, il y a eu des réunions collectives où beaucoup de gens étaient invités. Et il a été décidé de mettre en place un réseau qui, bien sûr, n'avait pas de titre et on ne savait pas comment il allait s'organiser, mais où devaient être représentés à la fois les chercheurs, les universitaires, les institutions patrimoniales comme les archives, les bibliothèques, les pouvoirs publics comme la DRJSCS maintenant, et les associations. Donc déjà dans les premières réunions, c'était ça qui était mis en place, et à partir de cette période, nous avons réfléchi sur comment s'organiser, comment travailler. Et les institutions qui avaient la capacité de financer ont demandé à Approche Culture et Territoire de coordonner le réseau. C'est ce que nous faisons depuis 2009, fin 2009, avec la mise en place d'un site et l'organisation de journées d'études localisées à La Seyne, à Beausoleil et dans d'autres endroits, et tenter de mettre les gens en réseau, ce qui était très difficile jusqu'à maintenant. Le lancement de la Biennale a tout changé, parce que tout le monde a vu un intérêt et un projet commun dans lequel il pouvait s'investir, et ça donne ce programme qui, en l'espace de 2 mois, est parti de 2-3 propositions à en arriver à 64.
Cette Biennale s'appelle Mémoire en chantier ?
Oui, Mémoire en chantier, parce que beaucoup de choses qui sont racontées ici sont ignorées ou oubliées, et qu'il y a tout un travail à faire ensemble, tout le monde, hein, comme la composition du réseau et au-delà, avec les artistes aussi, avec les associations qui n'ont pas à faire avec les questions de l'histoire, tout un chantier en construction pour qu'on ait une vision de l'ensemble des gens qui vivent sur ce territoire, c'est ce qu'on appelle l'histoire commune.
Comment a été faite la programmation de cette biennale ?
Bon, à partir des contacts que nous avons sur le terrain à travers les journées d'études et des adresses qu'on a collectées à travers le fichier de la DRJSS ex-accès, nous avons contacté des gens, nous leur avons envoyé la proposition, certains ont répondu parce qu'ils nous connaissaient. Mais ce qui, pour nous, a été un apprentissage, c'est que ça ne sert à rien d'envoyer des mails, ça ne sert à rien même de téléphoner après s'il n'y a pas de rencontre directe avec les gens. Cette relation importante, humaine, qui fait que les gens s'investissent dans un programme ou pas. Tant que c'est virtuel, ça reste en l'air. Donc on sait maintenant comment faire pour aller beaucoup plus loin. C'est en rencontrant les gens et en échangeant régulièrement qu'on peut monter un programme de ce style. Rien de ce qui n'a été proposé a été rejeté, tout a été accepté, sauf ce qui était hors temps, qui n'était pas prêt. Et depuis que c'est lancé, on a tous les jours des gens qui disent « on aurait bien aimé être là, voilà ce qu'on fait ». Donc on voit déjà émerger la deuxième biennale.
C'est une biennale constituée de plein de propositions différentes, de rencontres, d'expositions, de spectacles, de conférences, tout ça. Et toi, tu disais quand même qu'il y avait deux éléments qui te semblaient particulièrement importants. C'est le travail qui a été mené autour des Indes chinois en Camargue et le travail qui est mené à la Seyne-sur-Mer.
Oui, oui, parce que il y a d'autres choses qui sont, je ne voulais pas non plus tout citer, il y a Beau Soleil, le travail qui est fait à Beau Soleil, qui sont les quartiers nord de Monaco. C'est un quartier d'immigrés, créé pour les immigrés, pour tous ceux qui travaillent dans les hôtels et comme femmes et hommes de ménage pour les grands et riches personnages qui vivent à Monaco. Là aussi, il y a un travail intéressant. Mais la Seyne-sur-Mer, c'est remarquable parce que c'est un travail de 3 ans qui fait révéler des choses extraordinaires sur la vie des ouvriers des chantiers navals, de leur famille, leur vie associative et culturelle. C'est des choses que on ne se posait pas avant comme question. On parle de force de travail, de problèmes de logement, de problèmes d'alphabétisation. Et là, on voit une association de travailleurs africains qui monte une bibliothèque qu'on pourrait aujourd'hui jalouser avec Aimé Césaire, Kateb Yassine, des grands auteurs africains et français et francophones. On voit cette vie, comment ils s'organisaient alors que les bibliothèques publiques ne répondaient pas à leurs besoins. Par exemple, l'histoire du riz de Camargue qui aurait été améliorée par des techniques venant d'Indochine mais portées par des ouvriers qui ont été menés de force, c'était extraordinaire. Mais ils sont toujours là, ils vivent là. Il y aura un hommage à Saint-Chamas, à ces ouvriers-là qui ont travaillé à la fois dans les rizières de Camargue, mais aussi dans les usines d'armement pour appuyer l'armée française. Hein, en fait, il y a 20 000 personnes qui ont été déplacées. Et on apprend par hasard aussi que ces Indochinois se sont organisés à l'époque, pendant la Deuxième Guerre mondiale, en 1944, il y a eu une réunion à Avignon des travailleurs, des militaires et des intellectuels indochinois à Avignon, un congrès vivant en France. Donc on découvre et ça fait partie de notre histoire et c'est à ça que s'attelle la biennale et le réseau.
Et en même temps, c'est vrai que souvent quand on parle d'immigration, d'histoire de l'immigration, on peut avoir une certaine tendance à imaginer un regard misérabiliste. Là, ce sont des histoires de
vie. Hein, des parcours, des gens qui sont venus, qui se sont battus pour avoir un boulot, qui ont évolué dans leur carrière, qui ont constitué des familles, qui se sont mariés, qui ont attrapé des maladies, il y a de tout. Mais je pense que ce qui est important à dire aujourd'hui, c'est que à travers le travail qu'on fait dans le réseau et aussi Approche Culture et Territoire et d'autres associations, c'est qu'on ne peut plus parler de telle communauté ou tel groupe. Quand on fait l'histoire d'un territoire, il faut faire l'histoire du territoire de tous les gens qui habitent dessus. Et à partir de moment, tout est tellement plus simple parce que les gens sont venus pour travailler, ils ont vécu, ils ont été à l'école, ils ont eu des problèmes, ils ont réussi, ils n'ont pas réussi, mais c'est que des histoires de vie et d'amour.
Yvan Gasteau est historien, il est membre du laboratoire URMIS de l'Université de Nice, un laboratoire qui participe activement au réseau pour l'histoire et la mémoire des immigrations et des territoires en PACA. Il nous dit quelques mots sur le rôle de l'URMIS dans ce réseau et sur le travail d'historien des immigrations aujourd'hui.
Alors l'URMIS est l'unité de recherche migration-société. Unité de recherche migration-société, donc à l'Université de Nice et à l'Université de Paris 7.
Ça existe depuis longtemps ?
Bon, ça existe depuis une dizaine d'années et c'est un laboratoire qui est très ancien en fait, qui s'appelait au départ l'IDERIC et qui travaillait dans les années 70 déjà sur l'immigration, le logement social, des migrants, etc. Donc c'est un des plus vieux laboratoires qui travaille sur l'immigration de France.
Comment ça s'explique ?
Et bien ça s'explique parce qu'il y avait à Nice une forte présence de sociologues qui étaient attentifs à l'immigration, des gens comme Michel Auriol, qui ont été des fondateurs, qui très tôt ont été les premiers, les pionniers à travailler sur la sociologie de l'immigration. Alors, il n'y avait pas d'historien à cette époque-là, mais beaucoup de travaux sur les bidonvilles à l'époque, sur l'implantation des migrants, sur l'alphabétisation, sujet scolaire, donc un labo qui a donc un ancrage, on pourrait dire, assez ancien. Voilà.
Alors, ce labo a décidé de faire partie du réseau de l'histoire des immigrations et des territoires. Pour quelle raison ? Qu'est-ce qui vous a amené à vouloir faire partie de ce réseau ?
Alors, moi, je suis un des membres actifs du réseau, pour le labo de ce réseau, parce que, effectivement, j'ai été le porteur d'un projet très vaste qui a duré 3 ans, en fait, qui a été un programme de l'accès, l'Agence pour la cohésion sociale, qui avait, dans toutes les régions, proposé un programme pour faire l'histoire des migrations. Donc moi, j'ai porté ce projet sur PACA pour mon laboratoire. Donc du coup, le laboratoire est devenu un des acteurs principaux de ce réseau qui s'est monté à l'issue de ce travail. Et en fait, avec ce travail, qu'est-ce qu'on a fait ? Eh bien, on a rédigé un récit historique sur la manière dont l'immigration avait impacté, la région PACA. Ça, c'est un premier aspect. On a fait un guide des archives. On a essayé de repérer où pouvaient être les archives les plus importantes de l'immigration. Et puis, on a travaillé aussi sur la mémoire, quels étaient les groupes qui étaient porteurs de la mémoire de l'immigration. Donc tout ça a donné une dynamique qui a permis à notre laboratoire de recherche, de sociologues et d'historiens que je suis, à être un des acteurs de ce réseau pour l'histoire et la mémoire des migrations et des territoires en PACA.
Donc cette histoire des immigrations en PACA, quelles sont ses caractéristiques ? Est-ce qu'elle est vraiment très différente de ce qui a pu se passer sur le territoire national, c'est-à-dire en France ?
Ouais, c'est une bonne question parce que beaucoup de choses se font un peu partout en France. Et nous, en PACA, il y a quand même des éléments d'originalité qu'on essaie de mettre en avant. Hein. Bon, tout n'est pas original en PACA. Il y a des réalités de l'immigration qu'on peut retrouver ailleurs. Le bidonville, le problème du racisme, la question du travail sont des questions qu'on retrouve ailleurs. Mais on peut quand même trouver, si on creuse, si on va loin, si on fait des investigations, une réalité locale. Alors, la région PACA, ce n'est pas forcément une entité qui a une sorte de caractère incontournable, mais on se rend compte que la ville de Marseille est un territoire tout à fait particulier en matière de rapport à l'altérité depuis très longtemps. Beaucoup de travaux l'ont déjà montré et encore beaucoup de travaux restent à mener sur cette ville. Peut-être la ville et ses quartiers, la ville et des lieux très particuliers jusqu'à l'intime, jusqu'à un café, un immeuble ou une maison. Plein de choses sont encore à aborder. Peut-être la ville et sa région, le département des Bouches-du-Rhône. Je crois que là, il y a vraiment des spécificités locales. On peut trouver aussi une spécificité sur la Côte d'Azur. La Côte d'Azur a aussi, en matière d'immigration liée au tourisme, plus particulièrement, une réalité tout à fait particulière. Et puis aussi, quelque chose qu'on délaisse pas mal, c'est l'immigration rurale, les départements alpins par exemple, où on a aussi à travailler sur ces migrations saisonnières, sur différentes périodes, parce qu'on travaille sur essentiellement le XXe siècle, mais on peut remonter au XIXe, voire plus loin. Donc je dirais que ce réseau a quand même s'il s'inscrit dans un cadre qui fait que toutes les régions s'intéressent plus ou moins, nous plutôt plus que d'autres, mais à l'immigration, à l'histoire de l'immigration, on peut y trouver des originalités locales que finalement le travail, la micro-histoire en fait, le travail en petites unités sur des petits territoires permet de révéler. Et tout ça nous apporte à alimenter une connaissance. Au-delà de la question citoyenne, au-delà de ce que ça peut aider à produire, on se rend compte qu'effectivement, travailler sur ces sujets, ça produit de la connaissance historique.
Bon, vous rappeliez avec l'URMIS que des chercheurs qui se sont préoccupés de l'histoire de l'immigration, c'était assez ancien, mais il semble que sur ces 10 dernières années, ça soit vraiment devenu quelque chose d'important dans la recherche historique. Quels sont les enjeux, hormis la cohésion sociale, tout ça, quels sont les enjeux de ces études-là ? Est-ce qu'on peut rapprocher ça de ce qui s'appelle aux États-Unis les post-colonial studies, par exemple, ce genre de choses ? Et quelles sont les méthodes d'un historien de l'immigration aujourd'hui ?
Bon, c'est une grande question. Oui, vous avez raison de dire que depuis une dizaine d'années, il y a une explosion des études sur l'immigration. On pourrait dire plus largement sur les questions interculturelles. hein, pour être d'ailleurs que ce soit en histoire, mais dans toutes les sciences humaines. Mais l'histoire particulièrement, aujourd'hui, produit beaucoup de travaux sur l'interculturel. Alors c'est l'immigration, mais ça peut être aussi effectivement la colonisation qui est liée, hein, la colonisation des colonisations, la question coloniale, ou la question même de l'esclavage. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a l'impression que après une longue période durant laquelle l'immigration était très peu traitée finalement par les historiens s'intéressaient beaucoup plus aux questions de révolution, de lutte des classes, aux questions peut-être même d'histoire de France en général. Aujourd'hui, on relie toute cette histoire, par exemple la Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale, la question de la Révolution française, à l'aune, à partir d'une base liée à l'interculturel. On se rend compte que quelque part aujourd'hui, on produit souvent une histoire interculturelle qui est en fait une histoire de France. Donc tout ça, ça traduit quand même nécessairement une sorte de constat qui est de dire que même si tout n'est pas rose et que le rapport à l'immigration, le rapport à l'autre reste problématique dans la société française, néanmoins, on peut quand même considérer que les historiens se sont attelés à ce sujet et que aujourd'hui, les histoires, à différents niveaux, l'histoire en général, s'est emparée du sujet immigration et plus largement interculturel pour en faire un objet d'étude central de la discipline historique. Aujourd'hui, un historien qui travaille sur l'immigration est un historien qui n'est pas à la marge de la discipline historique, mais qui est quand même au cœur. Alors, on pourrait s'interroger sur les résultats que ça produit, pas forcément positifs, parce que bon, finalement, on pourrait considérer que le racisme, le rejet, tout ça existe encore dans la société. Mais il me semble que ça a quand même un poids, que ça a quand même une vertu qui est quand même de relire des événements qui auparavant étaient des événements qu'on n'avait pas pensé à lier à l'immigration, avec ce poids de l'altérité. La Première Guerre mondiale, pendant longtemps, on n'a jamais évoqué les travailleurs immigrés sur les chaînes de montage ou les tirailleurs dans l'armée. Pour la Seconde Guerre mondiale, il y a eu ce film indigène qui a montré ça. Donc on relit, on revisite la Commune de Paris. Aujourd'hui, on découvre que dans la Commune de Paris, il y avait aussi, par exemple, des Turcos, enfin des gens qui n'étaient pas forcément des Français. Donc tout ça nous amène à refaire l'histoire, en quelque sorte. Et ce reformatage de l'histoire est sans doute quelque chose d'intéressant. Autre élément, c'est que, on parlait des méthodes de travail. Aujourd'hui, par exemple, cette biennale en est la preuve, on s'intéresse beaucoup à l'histoire locale sur l'immigration. Et s'intéresser à un objet de la ville de Marseille, par exemple, à un bâtiment de Marseille ou à une figure, peu importe qu'elle soit connue ou méconnue, mais qui soit significative pour la connaissance, est un élément prépondérant qui nous amène à revisiter notre manière de travailler. Faire l'histoire d'un inconnu issu de telle ou telle immigration est peut-être très significatif pour comprendre un certain nombre de choses. Donc on est dans une sorte de diversification qui fait que le local, le territoire ou l'individu, même ordinaire, est quelqu'un qui compte pour l'historien. Et ça, c'est nouveau.
S'intéresser à ces immigrations du passé, est-ce qu'il n'y a pas un effet pervers qui ferait que ça masque un peu des interrogations sur les immigrations d'aujourd'hui, telles que les Chinois, les Afghans, les Roms?
Oui, alors, les historiens travaillent sur différentes périodes, ils se complètent, il y a une constellation de travaux qui se mettent en cohérence ou pas. Enfin bon, on n'a pas un historien qui va faire l'ensemble de l'histoire de l'immigration dans la région, c'est pas possible. En revanche, il y a une collection comme ça de travaux, plus ou moins précis, plus ou moins localisés dans le temps, avec sur une année, sur 10 ans, sur 20, sur 50 ans. Bon, alors il est vrai que l'historien a tendance à parfois explorer un passé plus ou moins lointain, et il y aurait peut-être effectivement cet écueil de dire, oui, vous vous intéressez à l'immigration italienne au 19e siècle, mais quel rapport avec aujourd'hui? Moi, je dirais justement que toute histoire est contemporaine, toute histoire est celle du temps présent. C'est-à-dire qu'en fait, y compris quelqu'un qui va s'intéresser à l'Antiquité, il développe cet intérêt par rapport aux problématiques d'aujourd'hui. Je dirais donc que s'intéresser aux Italiens au 19e siècle, c'est quelque part s'intéresser aux questions d'immigration, de discrimination aujourd'hui, c'est apporter des éléments de connaissance qui permettent à celui qui va lire ce travail, qu'il soit historien ou pas, ou citoyen, d'apporter des éléments de réflexion sur la situation actuelle. C'est ça, c'est à ce rôle-là que sert l'historien, et ne pas être confiné à des études lointaines et vaines, finalement. Donc, je dirais que tout travail, notamment par exemple sur l'immigration italienne, est un travail qui en dit long aujourd'hui sur le présent, parce que la manière d'aborder les choses sont des éléments qui permettent la comparaison et aux citoyens de faire la comparaison avec aujourd'hui. D'autre part, il existe ce qu'on pourrait appeler une histoire du temps présent, c'est-à-dire qu'on ne néglige pas, enfin un certain nombre d'historiens ne négligent pas de travailler sur des immigrations récentes, avec d'autres outils, d'autres approches, ce n'est pas les archives publiques, qui sont parfois incommunicables, mais à partir d'autres matériaux comme la presse, comme des entretiens avec des témoins, etc. Et donc le principe, c'est quand même de ne pas négliger des immigrations récentes qui se sont installées ces dernières années. Et je dirais que cette conjugaison fait que la variété de la discipline historique permet d'offrir ces multiples points d'accès. Beaucoup de choses restent à écrire, évidemment, c'est un champ inépuisable. Beaucoup de choses ont été écrites aussi, mais je dirais qu'aujourd'hui, il faut considérer, et la Biennale le montre, que l'histoire de l'immigration en PACA est quelque chose qui est une activité en friche, on pourrait dire. D'ailleurs, l'historien n'est pas isolé, il est accompagné, partenaire d'associations, d'institutions qui le soutiennent en quelque sorte et qui l'aident, comme l'historien peut aider aussi ses structures. Donc il y a vraiment un partenariat que la Biennale met en scène.
C'est Yvan Gastaud, historien, membre du laboratoire URMIS de l'Université de Nice, et Ramzi Tadros de l'association ACT, Approche Culture et Territoire, une association qui coordonne le réseau pour l'histoire et la mémoire des immigrations et des territoires, un réseau qui organise donc de septembre à décembre 2011 dans une quinzaine de villes et villages de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, la première édition de la Biennale Mémoire en Chantier. Exposition, spectacle, projection, rencontres et débats. Plus d'infos et contacts au 04 91 63 59 88 ou sur contact@rhmit-paca.fr.